Enfilez votre ciré jaune et vos bottes. Aujourd'hui, nous partons en mer avec Jean Gomy. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au musée des pêcheries de Fécamp pour parler de votre exposition qui s'intitule Jean Gomy océanique. Cette exposition est liée principalement à la mer et vous avez consacré une grande partie de votre carrière à immortaliser le monde marin. Pourquoi ce monde vous fascine autant et comment vous êtes rentré dans ce monde ?
Bon, ça démarre l'enfance et puis comme je suis plutôt un gars de la côte, du sud-ouest, les grandes plages, les zoyas, le sable, et forcément l'envie vous prend d'aller un peu sur la mer. Mais je suis principalement plutôt quelqu'un de la côte, mais franchement de la côte.
Alors, vous êtes monté sur des chalutiers pour photographier la pêche et vous avez pu voir l'évolution du métier de marin-pêcheur. Qu'est-ce qui a changé dans votre dans la manière de travailler au fil du temps ? Qu'est-ce que vous avez pu observer ?
Alors, il y a la manière de travailler pour eux, la manière de travailler pour moi. Pour eux, passer de la voile au moteur, c'est quelque chose. Le moteur, c'est quand même un sacré monstre qui force à pas dormir la nuit puisqu'il peut travailler, lui. En voile, j'imagine que les gars pouvaient être plus souples à cet égard-là. En ce qui me concerne, c'est un peu pareil, mais parce que je n'ai connu que le moteur, c'est-à-dire des petits chalutiers quand j'avais 14-15 ans, à Royan, dans l'estuaire de la Gironde et plus, vers le phare de Cordouan, tout ça. Et puis, en haute mer, donc, avec ou des énormes chalutiers, le dernier c'était un russe, en Mauritanie. Et puis pendant longtemps, pendant 7-8 ans, j'ai fait pas mal d'aller-retour avec des marées de 3, 4, 5 semaines, mais en Atlantique Nord, avec des chalutiers classiques à pont découvert, c'est-à-dire on pêche par le côté, et là on est au milieu du monde, quoi, au milieu du cosmos, dans ce genre de choses. Et j'ai entendu dire, tiens, il n'y a pas très longtemps par un marin, qu'il regrettait quand même le fait de ne pas être en contact avec l'extérieur comme ça.
Alors vous avez connu les boucanes fécampoises en activité. Comment c'était à l'époque ? Comment c'était la ville de Fécamp ?
Écoute, moi je suis arrivé dans les années 70, j'étais à la fac, et puis j'ai peut-être connu avant parce que je vivais à un moment, j'ai vécu quelques années à Rouen. Non, il y avait un côté modeste et en même temps sincère dans la ville. Je ne connaissais pas la ville vraiment, en fait. Et je suis non pas tombé par hasard, mais un peu par hasard sur la boucane Le Port, parce que je cherchais, alors que j'étais encore à la fac, je cherchais un bateau, un chalutier pour partir, pour voir, parce que j'avais envie. J'avais déjà un peu navigué, mais... Et je suis tombé sur le scout, un gars de chez Le Port, qui était très sympa, et j'ai entreaperçu et j'ai vu la boucane, avec les dames qui y travaillaient, et je me suis dit, mon Dieu, ça c'est un vrai truc, quoi, je veux dire. C'est-à-dire pile un endroit où on est entre le passé, non pas le futur, et le non-devenir d'ailleurs, puisque les boucanes allaient fermer. Et non, ça a été un joli choc visuel, parce que à ce moment-là, je lisais, j'étais en fac de lettres, je lisais Zola et tout, je me dis, mais attends, ça y est, j'ai remonté de 100 ans, là.
Alors, vous avez parlé de sincérité. Est-ce que c'est la mécanisation qui a enlevé la sincérité au Bocan, vous pensez ?
J'en sais rien. C'est plutôt l'orgueil d'être une ville comme les autres, mais Fécamp n'est pas une ville comme les autres. On ne met pas des palmiers sur le rivage. Il en était question à un moment.
D'accord. Alors vous avez photographié dans des conditions insolites, voire extrêmes. Qu'est-ce que la mer vous a appris sur l'homme ?
Non, les huis clos. En fait, les huis clos, j'entends, c'est-à-dire les endroits où les hommes sont serrés sur eux-mêmes. Donc, il y avait l'hôpital, la prison, les sous-marins, mais des tas d'autres huis clos de cette sorte. Et là, j'y trouve ma réalité. Et puis, comme je suis encore timide, j'étais tenu avec enthousiasme, d'ailleurs, d'aller photographier très près des gens, ce qui se faisait très peu. En fait, les photographes, en général, trouvent toujours des bonnes raisons pour photographier de loin, le zoom. C'est mieux de photographier les gens de dos, c'est tellement plus esthétique, etc. Il y a des thèmes, bon, bref, des écarts de ce genre-là. Et j'allais en face des gens et je trouvais ça formidable. Je me suis épanoui avec ça. Et quand on échange bien avec les gens, la relation s'épanouit, tout simplement.
En fait, la photographie, c'est plus quelque chose de social que simplement une photo en tant que telle. C'est une histoire derrière.
Ah ben, je sais plus ce que veut dire une photo en tant que telle, surtout par les temps qui courent. En effet, c'est une approche un peu sociologique. Il y a un travail de genre, mais ça peut être aussi un travail de plasticien, esthétique, etc. C'est pas du tout ma cour de récréation. Je m'y applique, je regarde, je suis toujours intéressé pour ces choses-là. La forme influençant le fond influençant la forme. Et là, je suis en train de démarrer un cours de d'esthétique, c'est pas bon.
Alors, quand on parle de navigation, on pense directement au bateau, mais vous avez aussi photographié dans des sous-marins,
oui.
Et pas n'importe lesquels. Vous êtes monté à bord de sous-marins SNA. Pourquoi aller sur ce type de sous-marin ?
Parce que depuis l'enfance, c'est toujours là la base. Je me suis nourri des films d'Hollywood à l'âge de 7, 8, 9 ans. Je crois que je les ai tous, d'ailleurs. C'était en noir et blanc à l'époque, et je trouvais formidable. Sauf que des films de sous-marins... Un univers fermé aussi. Bon, après, c'est chez le psychiatre qu'il faut que je voie pourquoi je vais dans ces endroits-là, mais qui est un endroit fermé aussi, certainement. Et pourquoi les lieux fermés? Parce que les choses y sont relativement simples. Je suis assez vite perdu dans les grandes villes où je n'ai jamais été, enfin, où je n'ai jamais vécu, vraiment. Et justement, quand on parle de sincérité... Ça ne veut pas dire que ce soit forcément positif. On voit qui est cloche, qui est intelligent, qui est sympa, qui est modeste, qui fait le malin. Les choses sont assez vite décrites. Et ça, j'aime bien. En photo, c'est quand même mieux. Et puis, le rapport aux gens est relativement plus direct.
Et comment on photographie la vie des marins dans un endroit aussi exigu et aussi important ?
Si on s'est photographié à 2 mètres, à 3 mètres, c'est pas tant là, de savoir techniquement quoi, c'est leur rapport aux gens. C'est-à-dire, si on sait communiquer, sans parler d'ailleurs, votre attitude, votre discrétion, votre relative modestie. En fait, vous êtes un acteur, ils deviennent un peu des acteurs. Et puis au bout de mois et de mois, bien sûr, les choses, parce que je suis resté longtemps là-dedans, je veux dire, ça a duré 3-4 mois, il y avait eu tous les repérages que j'ai faits, les entraînements, avec le chef des armées sous-marines, c'était assez rigolo, il a le même âge que moi, et je lui ai dit, écoutez, d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant au sous-marin, parce qu'en 1h30 à Hollywood, c'est passionnant, mais avec vous, ça risque de ne pas être très rigolo. Il s'est marré, bien sûr, il m'a dit, bon, et tous les deux, on s'est mis d'accord, on s'est dit, bon, ça serait bien que j'aille tester, c'était à Dubaï, et puis après, en Éthiopie, près de la mer Rouge. Je suis resté là à chaque fois 2-3 semaines. C'était déjà la première fois qu'un gars, une espèce de touriste professionnel, venait dans un sous-marin aussi longtemps. Ça s'est très bien passé. Et de fait, ensuite, il fallait trouver le financement du film. C'est une coproduction avec Arte. Et après, on fait le film. Et puis, on vit les aléas d'une vie proche. C'est pas simple. C'est-à-dire que là, il ne faut pas s'amener avec un scénario. Hein. C'est-à-dire que c'est la réalité qui vient à vous de la capter, à vous de l'accueillir. De la cerner, de l'embrasser presque, et ensuite, pareil pour eux.
Justement, rester autant de mois en mer dans un endroit aussi exigu, est-ce que c'est pas dur la vie en communauté ?
Elle l'est, mais vous savez, vivre dans une petite ville, c'est pas facile non plus.
Sur la mer, il y a aussi des plateformes qui surgissent hors de l'eau, ce sont des plateformes pétrolières. Vous êtes monté à bord d'une d'elles. Est-ce qu'on est impressionné par un bâtiment aussi imposant ? Ou est-ce qu'on est horrifié par les conséquences climatiques que ça engendre ? C'est quoi le sentiment qu'on monte dessus ?
Non, lentement. En 40 ans, j'ai vu effectivement les dérives que pouvaient prendre certains aspects de la technologie. Enfin, de ces... Visuellement, moi j'ai été formé aussi à l'anticipation, à la science-fiction. J'ai adoré ça et j'adore ça encore. J'aurais adoré pouvoir mener à terme le projet sur les éoliennes ici. Parce qu'en fait, ça a été fait un peu, mais de l'extérieur, vraiment à la surface. Les huis clos doivent être intéressants, mais quand j'étais par exemple dans le golfe d'Amérique centrale, j'ai vraiment passé des jours et des jours. C'était un huis clos formidable aussi, là, avec la machine, avec les contraintes du boulot, avec des moteurs, du vombrissement, de l'acier, une richesse minérale par-dessous. Et là, effectivement, on peut commencer à se poser la question, mais de la même façon avec le nucléaire, de la même façon avec le gaz, ça c'est... J'ai touché à tout ça, j'ai touché à Tchernobyl, j'ai touché à Fukushima. On en voit les dérives, je suis concerné, je vois les erreurs, les progressions qu'on peut faire, les attractions que l'espèce humaine a pour ça, pour survivre, tout simplement, mais en même temps, les choses pas terribles qui se font dans les intérêts financiers.
C'est ça, avec de plus en plus d'exportations, de trafic maritime, de pêche intensive. Est-ce que la mer a un bel avenir devant elle ? Est-ce qu'elle vaut toujours la peine d'être photographiée, d'être étudiée ?
Ça, c'est une drôle de question. J'en suis à rien, moi. Non, sans rien. Là, ces temps-ci, il y a des endroits où j'ai envie de retourner, que je connaissais. il y a des opportunités qui peuvent se... Théoriquement, je devais partir dans quelques jours sur un porte-hélicoptère en Arctique. J'y suis allé très souvent. Et vu mon âge, sur le coup, non pas ils ont hésité, c'est moi qui... Enfin, on hésitait. Et puis c'est eux-mêmes qui m'ont dit, écoutez Jean, vous les rejoignez. Mais sauf que c'était un mois et plus. Et que je sais que visuellement... C'est plutôt pas mal. On accueille le réel qui arrive aussi. Donc, il faisait des missions pour l'OTAN. Enfin, j'y vais pas. J'ai choisi à la fin de pas y aller parce qu'il y a vraiment un programme incroyable actuellement en France pour moi, tant par mes responsabilités que par ici, la fin de l'exposition, par exemple. Bon, et c'est à prendre bien au sérieux. Et puis, tant d'autres choses, à Magnum, à l'Académie... des expositions à l'étranger qui partent avec cette exposition. J'ai pas d'assistant, j'ai pas de secrétaire, donc j'assure tout au fur et à mesure. Et là, je dois dire que depuis 2-3 ans, oh.
Alors, avant de vous quitter, pour en savoir plus sur vous, j'aimerais faire un portrait chinois. Si la mer était un bruit, ce serait quoi pour vous ?
Hé, il y a un ressac auprès du phare de Cordouan, à l'extrémité de la Gironde, que j'ai enregistré d'ailleurs. C'est plutôt très beau.
Si la mer était un plat.
Un plat ?
Un plat pour vous, ce serait lequel ?
Comme je fais beaucoup à la pêche, surtout dans les rivières, les torrents, les choses comme ça, mais quand je suis à la pêche en mer, et j'y vais depuis longtemps, etc., tout de suite je pense à la facilité des orphies quand on les grille, quand on les mange par segments, sans prendre ni de couteau, ni de fourchette.
C'est noté. Si la mer était un sentiment, ce serait lequel ?
La dilution, c'est-à-dire que là vous êtes au milieu du grand tout, quoi, et vous fermez votre gueule en tant qu'individu.
On se sent tout petit par rapport
c'est
à
ça. C'est pas
ce...
tout petit. Vous êtes dilué dans le grand monde. Vous en faites partie et vous restez non pas modeste, mais là, pour provoquer un peu, vous fermez votre gueule. Mm. Au milieu de l'Arctique, justement ce matin, je cherchais une photo là, à laquelle je pense ce matin. Il y a un moment, on se dit, bon ben voilà, j'ai eu vraiment des moments très forts, très violents. Dans le désert, ça peut être pareil. Sur la mer, c'est encore autre chose. C'est mouvant, c'est fluide. C'est pas que c'est beau. Ça s'impose.
Si la mer était une musique.
Ah. J'en sais rien. Une musique pas monotone. Mais j'en mettrais pas dans le genre descriptif avec les bruits de tempête. Non.
Eh bien, merci, Jean Gomis, d'être passé au micro de Radar. Pour découvrir la mer dans ses moindres détails, mais pas que, rendez-vous du coup au musée des pêcheries. Attention, c'est jusqu'au 8 mars. Merci beaucoup. Dites-moi.
Non, il y a une chose que vous pouvez ajouter. Le 14, là, samedi, je crois, c'est samedi prochain, pendant une heure et demie, il y aura un échange avec le public. C'est-à-dire, c'est pas une conférence, d'ailleurs. C'est une discussion à bâton ouvert avec des tas d'arguments où je montre des bouts de films que j'adorais quand j'étais petit, des une minute de films par-ci, par-là, qui ont influencé tout par-delà, en fait, du rêve d'enfant et d'adolescent.
Eh bien, très bien, l'invitation est notée. Merci beaucoup.
Bonsoir.
Après notre interview, Jean Gomis nous confie qu'une musique lui parle concernant la mer, et c'est Jean Ferrat, Raconte-moi la mer.
Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des algues. Et le bleu et le vert. Qui danse sur les vagues. La mer, c'est l'impossible, c'est le rivage heureux, c'est le matin paisible quand on ouvre les yeux. C'est la porte du large ouverte à deux battants. C'est la tête en voyage vers d'autres continents. C'est voler comme Icare au-devant du soleil, enfermant sa mémoire à ce monde cruel. La mer, c'est le désir de ce pays d'amour. Il faudra découvrir avant la fin du jour. Raconte-moi la mer. Dis-moi ces aubes pâles. Et le bleu et le vert. Des étoiles. La mer, c'est l'innocence du paradis perdu, le jardin de l'enfance où rien ne chante plus. C'est l'écume et le sable toujours recommencé. Et la vie est semblable au rythme des marées. C'est l'infinie détresse et des choses qui s'en vont. C'est tout ce qui nous laisse à la morte saison. La mer, c'est le regret de ce pays d'amour. Cherche toujours et qu'on n'atteint jamais. Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des algues et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues.